Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, nous sommes dans une étude des origines du livre de la Genèse, et nous examinons actuellement le chapitre 3 de Genèse. Certes, nous ne resterons pas uniquement dans ce chapitre, mais c'est au moins notre point de départ. Et vous pouvez ouvrir votre Bible à la Genèse, car je vais faire quelques remarques sur les 7 premiers versets de Genèse 3. Dans l'introduction du 3e chapitre de la Genèse, vous avez le récit du serpent dans le jardin, tentant Ève, et sa désobéissance subséquente à Dieu, puis Adam, qui suit son exemple par sa désobéissance. Immédiatement, après cet acte, ils furent tous deux remplis de honte, comme indiqué par la conscience de leur nudité au verset 7, et ont cousu ensemble des feuilles de figuier pour se couvrir. Cet incident a un impact monumental. Jusque-là, selon le chapitre 1, verset 31, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé dans les 6 jours, et voici, c'était bon. Tout était très bon. Le chapitre 2, bien sûr, est une extension de la création de l'homme au 6e jour. Donc, à la fin du chapitre 2, tout est toujours très bon. Mais quand vous arrivez au chapitre 3, un changement dramatique se produit, et à partir de là, tout va très mal. Le récit simple des 7 versets d'ouverture du chapitre 3 de Genèse décrit pour nous le premier acte de désobéissance humaine, qui a provoqué la malédiction sur toute l'humanité, la chute. L'impact de cette chute a touché toutes les parties de l'univers. Il est exact de dire que tout ce qui ne va pas dans notre monde vient du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de mal. S'il n'y avait pas de péché, tout serait très bien. Tout ce qui a été créé dans les cieux, tout ce qui a été créé sur la terre serait très bon, tel qu'il était au 6e jour. Mais à cause du péché, tout est très mauvais. Des guerres mondiales, du terrorisme, des meurtres de masse, des meurtres en série, des accidents d'avion, des accidents de voiture, des incendies, des blessures et de la mutilation de personnes par des accidents, des catastrophes de réacteurs nucléaires comme Tchernobyl, de l'empoisonnement par rayonnement, de la pollution, des cancers, des maladies cardiaques, toutes les maladies et toutes les relations brisées, tous les divorces, tous les enfants orphelins, toutes les drogues, tous les crimes, la solitude sous toutes ses formes, toutes les confusions, tous les conflits, toutes les luttes, toutes les déceptions, toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les culpabilités, toutes les dépressions, toutes les peines, tous les échecs, tous les remords, ainsi que toute la convoitise, l'égoïsme, l'orgueil, la haine, la convoitise, la rébellion, le meurtre, le vol et les actes sexuels en dehors du mariage, l'irresponsabilité et la désobéissance aux parents. En résumé, tout mal, toute tristesse, tout échec, toute mort est à cause du péché. Les personnes qui ne croient pas au péché et ne comprennent pas la chute ne peuvent pas diagnostiquer correctement le dilemme humain. Il est impossible de comprendre le monde. Il est impossible de comprendre le cosmos, le monde ordonné de la création. Il est impossible de comprendre l'homme. Il est impossible de comprendre la désintégration de la matière. Il est impossible de comprendre le monde et l'univers qui s'effondre. Il est impossible de comprendre le comportement de l'homme si vous ne comprenez pas que tout est le produit du péché. Tout péché dans le monde est le résultat de ce qui s'est passé dans Genèse 3. Donc Genèse 3, en tant que point d'origine, est absolument critique. En fait, c'est sans doute le chapitre le plus important de la Bible, car il explique pourquoi le reste de la Bible raconte l'histoire de la rédemption. Tout ce qui ne va pas est à cause du péché. Finalement, tout meurt. Tout dans le monde physique meurt. Et le péché est le tueur. Nous devons vraiment retirer les masques peints portés par le péché et révéler la tête de mort qui se trouve derrière le masque. Un vieil écrivain a dit « Qui est le vieux sacristain qui creuse une tombe pour l'homme? Qui est la tentatrice peinte qui vole sa vertu? Qui est la meurtrière qui détruit sa vie? Qui est la sorcière qui trompe d'abord, puis dame son âme? C'est le péché. Qui, d'un souffle glacé, ravage les belles fleurs de la jeunesse? Qui brise le cœur des parents? Qui amène les cheveux gris des vieillards avec tristesse dans la tombe? Le péché. Qui, par une métamorphose plus hideuse, Covid, ne l'aurait jamais imaginé, change des enfants doux en vipères, des mères tendres en monstres, et leurs pères en pire qu'Hérode, les meurtriers de leur propre innocence. Le péché. Qui jette la pomme de la discorde sur le cœur des ménages, qui allume le flambeau de la guerre et le porte flamboyant sur des terres tremblantes, qui, par les divisions dans l'Église, déchire la robe sans couture du Christ. Le péché. Qui est cette Dalila qui chante une berceuse aux Nazaréens endormis et livre la force de Dieu entre les mains des non-circoncis? Qui, des sourires sur son visage, des flatteries mielleuses sur sa langue, se tient la porte pour offrir les rites sacrés de l'hospitalité, et quand le soupçon sommeille, perce traîtreusement nos temples avec un clou? Quelle belle sirène qui, assise sur un rocher, au bord de l'étang mortel, sourit pour tromper, chante pour séduire, embrasse pour trahir, et jette son bras autour de notre cou pour sauter avec nous dans la perdition? Le péché. Qui transforme le cœur le plus doux en pierre, qui jette la raison de son trône élevé et rend les pécheurs fous, alors que Gadarin descend un précipice pour tomber dans un lac de feu? Le péché. C'est prosaïque, et c'est vrai. C'est le fondement de toute la vraie vision du monde. Toute compréhension précise la façon dont les choses dans le monde exigent une compréhension du péché. Sans une compréhension de cela, il n'y a pas de vrai discernement, de quoi que ce soit, parce que le péché a tout affecté. Écoutez Romains 8, verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. » En d'autres termes, ce n'était pas que toute la création voulait cette futilité, cette condition déchue, c'était la punition de Dieu pour le péché de l'homme. La création elle-même, le verset 21 dit, qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une déclaration déterminante. Actuellement, toute la création, tout ce qui a été fait pendant les 6 jours de la création, est esclave de la corruption. C'est la déclaration essentielle dans Romains 8, 21. C'est pourquoi le verset 22 dit « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Encore une fois, toute la création, dans chaque aspect de celle-ci, souffre collectivement à travers les douleurs de la malédiction que Dieu a placée sur elle. La futilité, l'incapacité d'être ce pour quoi elle a été conçue, et tout cela à la suite du péché, à cause du péché. Aucune partie de la création n'existe maintenant comme Dieu l'a voulu. Vous n'êtes pas comme Dieu a voulu que vous soyez. Je ne suis pas comme Dieu l'a voulu. Les oiseaux ne sont pas comme Dieu l'a voulu. Les animaux ne sont pas comme Dieu l'a voulu. Les plantes ne sont pas telles que Dieu les avait prévues. Les graines de la terre ne sont pas ce que Dieu voulait. L'eau n'est pas comme il l'avait prévu. La terre, les montagnes, et tous les phénomènes merveilleux du royaume stellaire non plus. Toutes les planètes, toutes les étoiles, et tout ce qui va dans l'infini n'est pas ce que Dieu a fait à l'origine. Tout cela est réduit à un certain niveau de futilité. Regardez le verset 20. « Il a été soumis », ce qui signifie qu'il a été démoli, dominé. La futilité est « mataiotes » en grec, et cela signifie essentiellement « être sans succès ». Ce serait un bon sens pour le mot, ou une autre façon de le dire, incapable d'atteindre un objectif, être un échec au fond. Donc, le point ici est que tout l'univers créé n'est pas comme Dieu l'a conçu. Tout cela n'est pas conforme à l'intention de Dieu. Il est incapable d'atteindre son objectif. Il a été littéralement, par la chute, soumis à une existence infructueuse. Puis, au verset 21, comme je l'ai mentionné, il y a l'esclavage de la corruption. L'esclavage indique une incapacité à se libérer, un esclavage qui ne peut être brisé. Voici l'univers qui essaie en vain d'atteindre son objectif. Il est incapable de faire cela. Rien dans l'univers ne peut être comme Dieu l'a conçu. Par conséquent, il est asservi au principe de corruption. Cela peut simplement être défini par deux mots, la décadence et la mort éventuelle, la décomposition et la mort. Tout est en décomposition et se dirige vers l'extinction. Tout dans l'univers va dans cette direction. Le tout est esclave de la corruption. Puis, au verset 22, il dit « Toute la création gémit, stenazo », et le verbe est généralement utilisé pour désigner le cri de quelqu'un qui est dans une situation terrible, sans espoir d'échapper. C'est quelqu'un dans une situation terrible. Donc voici toute la création, incapable d'atteindre son but, conçue par Dieu, asservie au processus de décomposition et de mort, criant avec des gémissements qui représentent la frustration de ne pas pouvoir vous extraire d'une situation terrible. Avec lui, souffrir des douleurs de l'accouchement. C'est métaphorique. Les douleurs les plus graves et les plus durables, les douleurs de plus en plus dures de la naissance d'un enfant, sont comme les douleurs ressenties par la création. Le gémissement sous une douleur constante et intense comme à l'accouchement. Maintenant, c'est une description de l'univers actuel. Le verset 23 ajoute « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Il parle ici des croyants. Tout le monde gémit sous cette décadence et cette mort, et même les croyants en ressentent le poids avec empressement, dit-il, attendant notre adoption comme fils et attendant la rédemption de notre corps. Nous attendons d'être enfin libérés de cet asservissement à la corruption et d'être ce pourquoi non seulement nous avons été créés, mais recréés en Christ. Donc vous avez un univers entier qui peut être mieux expliqué par Romains 8, 20 à 22. Pas d'éducation, pas de socialisation, pas de civilisation, pas de psychologie, pas de technologie, pas de physiologie. Aucune avancée dans aucun de ces domaines ne pourra jamais modifier ce dilemme inévitable. C'est comme cela dans l'univers. Tout tend vers la mort. Tout est en voie de décomposition. L'univers entier ressent l'effet d'avoir été, par Dieu, soumis à la futilité. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui a causé tout cela? Vous passez d'un univers au chapitre 1, verset 31, déclaré que Dieu a dit qu'il a tout vu et que c'était très bien, à un univers où rien n'est très bon, tout est pourri, tout est affecté par la décomposition et se dirige finalement vers la mort. C'est un changement massif. Il s'agit d'une modification en gros. C'est un renversement complet. Comment tout cela se passe-t-il? Pour cela, je veux que vous reveniez dans Romains, au chapitre 5, et que vous vous rappeliez un verset que je vous ai lu la semaine dernière. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, ce que cela nous dit est très simple. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Par ce péché est venue la mort. Et bien sûr, l'implication de la décadence qui conduit inévitablement à la mort. 1 Corinthiens 15, 22 le dit dans des mots encore plus brefs et précis. En Adam, tous meurent. Maintenant écoutez, toute mort qui existe dans l'univers peut être attribuée à un seul homme. Cela remonte à un seul homme, Adam. Ce qu'Adam a fait dans le jardin, comme indiqué dans le chapitre 3 de Genèse, ce qu'il a fait lorsque sa femme l'a mené à le faire, a littéralement introduit le péché dans cet univers, et avec lui, la mort sur tout l'univers, car Dieu le soumettait à la futilité, l'a amené à l'esclavage de la corruption, et l'a laissé gémir et souffrir jusqu'au jour où il renouvellera la terre, quand il atténuera la malédiction, et finalement la fin du royaume millénaire, quand il restaurera la création déchue. Et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'histoire de notre monde est l'histoire du péché. C'est vraiment tout ce que vous devez savoir. Maintenant, revenez avec moi au chapitre 3 de la Genèse. Je veux faire un petit exercice avec vous pour mettre l'emphase. Vous pourriez probablement le faire vous-même, mais je veux que vous regardiez comment cela se passe. Le mot « péché » n'apparaît pas dans Genèse 3. Le mot « chute » n'apparaît pas dans Genèse 3. Et pourtant nous l'appelons le chapitre où le péché est entré dans le monde. Et à juste titre, nous l'appelons la chute, et c'est à juste titre. Alors la question se pose, comment savons-nous que c'était vraiment aussi monumental que nous le disons? Pour le dire simplement, Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Les Juifs regardent l'histoire de Genèse 3 et ils disent « C'était Adam et c'était Ève, c'était leur problème. Cela ne nous regarde pas. » La théologie juive ne croit pas à la dépravation totale. Ils ne croient pas au péché originel. Ils pensent que nous venons tous au monde avec une table rase et que nous avons le privilège de prendre une décision qui ne concerne que nous. Ce n'est pas ainsi. Comme je vous l'ai lu dans Romains 5, 12, quand Adam est parti, nous sommes tous partis. Par le péché d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et avec ce péché est venue la mort. Nous sommes tous morts. Tout est mort quand Adam a péché. Donc, à travers toute l'histoire humaine, tout va mal. Si vous remettez cela en question, tout ce que vous avez à faire est de sortir du chapitre 3, de sortir simplement du chapitre 3. D'abord, au chapitre 3, selon le verset 7, ils ont eu honte pour la première fois. Le chapitre 2 se termine. Le verset 25. L'homme et la femme étaient nus et n'avaient pas honte. Vous savez pourquoi ils pourraient être nus et ne pas avoir honte? Parce qu'ils n'avaient aucune mauvaise idée de quoi que ce soit. Les mauvaises pensées n'existaient pas. Leurs pensées n'étaient que pures, honorant Dieu et exaltant Dieu. Leur perspective était celle de Dieu. Il n'y avait pas d'ego. Il n'y avait pas de « moi-je ». Ils n'ont pas vu le monde d'une manière égoïste. Il n'y avait aucune perversion dans leurs pensées. Il n'y avait pas de mauvaises pensées. Donc, il n'y avait aucune raison d'avoir honte de leur nudité. Il n'y avait qu'une exposition complète de la part de l'homme et de la femme sans aucune honte, car il n'y avait pas de mal dans leur esprit ou dans leurs actions. Mais tout d'un coup, au verset 7 du chapitre 3, leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Tout à coup, ils avaient des pensées qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Tout à coup, ils pensaient à des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant. Et la réalité paralysante de la méchanceté les a mis dans l'embarras. Ils se sont donc couverts. Il y a la première indication de mauvaises pensées. Ensuite, la prochaine chose qui vient, c'est qu'ils voulaient se cacher de Dieu. Verset 8. Ils ont essayé de se cacher de la présence du Seigneur Dieu. Il y a quelque chose de vraiment différent ici. Tout à coup, ils ont de mauvaises pensées, et ils sont embarrassés. Ils doivent se couvrir, puis ils veulent fuir Dieu. Ils avaient l'habitude de marcher et de parler avec Dieu dans la fraîcheur du jour, et il n'y avait aucune raison de fuir Dieu, parce qu'il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait aucune pensée que vous ne voudriez pas que Dieu sache. Il n'y avait aucun mot que vous ne voudriez pas que Dieu entende. Il n'y avait aucune action que vous ne voudriez pas que Dieu voie. Maintenant, tout d'un coup, ils veulent fuir Dieu et s'enfuir. Et Dieu doit venir les trouver. Puis vous continuez plus loin dans le chapitre, et Dieu les confronte à propos de ce qu'ils ont fait. Et Adam dit, « La femme que tu m'as donnée en est responsable. » Vous entendez le rejet des blâmes. Au fait, il n'a pas vraiment blâmé Ève. Il a blâmé Dieu. Il n'a pas dit cette femme. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Son point était, « Je suis allé dormir seul. Je me suis réveillé marié. » Franchement, Dieu, tu aurais pu choisir n'importe quelle femme que tu voulais. Tu l'as choisie, elle. Ce n'est pas mon problème. Il blâme vraiment Dieu. Donc, maintenant, vous avez une conscience coupable. Vous avez des sentiments de honte. Vous vous cachez de Dieu. Puis, vous avez la réticence à accepter la responsabilité de son péché qui déplace le blâme. Non sur une autre personne, mais sur Dieu lui-même, et dit, « Dieu, si tu n'avais pas fait le monde comme tu l'as fait, et si tu ne m'avais pas donné la femme que tu m'as donnée, ce serait autrement. C'est vraiment ta faute. » Puis Dieu leur prononce une malédiction. Maudit, au verset 14. Maudit, au verset 17. Dieu les a maudits, et l'univers entier a ressenti la malédiction. Il était évident que la malédiction touchait plus qu'eux. Quand on parle du bétail, ils ont été maudits plus que le bétail. Ils ont été maudits plus que toutes les bêtes des champs. Mais cela parlait à Satan. Satan serait maudit plus que tout autre animal, mais les animaux seraient maudits. La femme serait maudite par la douleur lors de l'accouchement et le conflit conjugal. L'homme serait maudit parce que le sol serait maudit, et ainsi le sol commencerait à produire des épines et des chardons, et ce ne serait pas comme dans le paradis d'Éden. Ainsi vous pouvez voir que la malédiction commence à être ressentie partout. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard. Puis vous arrivez à la fin du verset 3, et tous deux sont chassés du jardin, parce que Dieu a dû les empêcher de manger de l'arbre de vie, de peur qu'ils ne vivent éternellement dans un état maudit. Ce serait vraiment la malédiction ultime. Nous ne savons pas à quel moment, entre le sixième et le septième jour du repos de Dieu, la naissance de leur premier enfant a eu lieu. Nous ne savons pas quand est venue la chute. Nous ne savons pas combien de temps ils ont vécu dans le bonheur d'Éden. Mais au chapitre 4, quand ils ont conçu un enfant, ils étaient déjà tombés. C'est très clair, parce qu'ils ont engendré des enfants pécheurs qui devaient faire un sacrifice à Dieu. Vous n'auriez pas besoin de faire un sacrifice à Dieu si vous n'étiez pas un pécheur tombé. Puis, ce que vous trouvez dans le chapitre 4 est un meurtre, n'est-ce pas? C'est le premier crime enregistré dans la Bible. Le meurtre. Caïn tue son frère Abel. Plus bas, au chapitre 4, verset 19. Lémec prit deux épouses. Maintenant, vous avez la polygamie. Vous descendez au verset 23. Lémec dit à ses femmes. Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma voix. J'ai tué un homme, car il m'avait blessé. Voici un meurtre de vengeance. Voici un deuxième meurtre, et nous en sommes toujours au quatrième chapitre. Après la généalogie, passez au chapitre 6. La généalogie indique que les années passent, et les années sont énumérées dans cette généalogie, le livre des générations d'Adam. Vous pouvez les lire vous-même. Il indique combien de temps ils ont vécu. Il est dit au chapitre 6, verset 5, que le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute intention des pensées de son cœur n'était que mauvaise continuellement. Le Seigneur était désolé d'avoir fait l'homme sur la terre, et il était affligé dans son cœur. Le Seigneur a dit, « Je vais effacer l'homme que j'ai créé de la face de la terre, de l'homme aux animaux, aux choses rampantes, aux oiseaux du ciel, car je suis affligé de les avoir créés. » Ils ressentaient tous la malédiction. Toute la vie créée ressentait la malédiction. Dieu dit, « Je vais simplement tout effacer. » Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Je ne sais pas combien de fois il doit dire « corrompu », mais il le dit au moins trois fois. Le verset 13. Dieu dit à Noé, « Et Noé était un homme juste », dit le verset 9. Il était apparemment avec ses fils, leur femme et sa femme, les seuls justes. Dieu dit, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Il l'a fait lors du déluge, les a détruits, et il a littéralement détruit la terre dans le sens où il l'a remodelée. Quand nous arriverons au récit du déluge, au chapitre 6, nous en parlerons. Ceci franchement nous le dit, et je pense que les descriptions bibliques les plus pénétrantes de l'étendue du péché de l'homme se trouvent ici au chapitre 6. Si vous voulez savoir à quel point c'était mauvais et à quel point c'était rapide, tout ce que vous devez faire, c'est de lire que le Seigneur a vu, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est une déclaration très complète, dans la mesure où Dieu regrette d'avoir créé l'homme sur la terre, qu'il était affligé dans son cœur. Il a dit, « Je vais m'en débarrasser », et au verset 11 et 12, comme je l'ai lu, « car ils sont corrompus, corrompus, corrompus ». C'est encore la description la plus pénétrante de la Bible sur l'étendue du péché de l'homme. C'est dans la période primitive. Cela ne nous montre franchement aucun progrès. Ce n'est pas que Dieu a créé l'homme et qu'il s'est amélioré. Dieu a créé l'homme et il a instantanément empiré et il a continué de s'aggraver. Il y a sept éléments dans cette description. Laissez-moi juste les citer pour vous. Le péché est indiqué de cette manière principale. Dans son étendue tout d'abord, sur la terre. C'était vraiment mondial. Verset 6. Le Seigneur regrettait d'avoir créé l'homme sur la terre. Au verset 7. Il va les effacer de toute la surface de la terre. Verset 12. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc, tout d'abord, l'étendue de ce péché était sur toute la terre. Deuxièmement, l'intériorité de ce péché. C'était systématique, c'était contagieux. C'était à l'intérieur de l'homme, comme l'indique le verset 5. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, c'est-à-dire les pensées, y compris toute l'intention ou imagination des pensées de son cœur. L'étendue du péché couvrait la terre entière, l'intériorité du péché jusqu'aux pensées mêmes. Cela va encore plus loin dans la nature même de l'homme, dans la formation de ses pensées. pas seulement les pensées, mais l'intention de ces pensées. Vous y êtes. Nous pourrions dire que même la motivation de l'homme est corrompue. La terre entière est corrompue, la pensée de l'homme est corrompue, son esprit est corrompu, et ses motivations profondes sont corrompues. Puis il parle du caractère absolument exclusif de ce péché. Au verset 5, il dit « Ce n'était que le mal continuellement. Le comportement de l'homme était exclusivement mauvais. C'était exclusivement le mal, continuellement. Ainsi, vous voyez le péché dans son étendue. Vous voyez le péché dans son intériorité, dans les schémas de pensée. Et vous le voyez dans sa motivation, au niveau même de l'intention. Vous le voyez sur son exclusivité. Ce n'est que le péché. Vous le voyez dans sa continuité. C'est toujours un péché. Puis dans son inclusivité. Il dit au verset 12, « Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair. » Si vous deviez regarder le chapitre 8, verset 21, vous avez une répétition d'une déclaration qui diffère un peu. Au milieu du verset 21, « Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. » Cela indique la précocité du péché, dès le début de la vie. Donc, vous voyez vraiment, c'est une description très élaborée de la dépravation. C'est une description très élaborée et minutieuse de la condamnation radicale de l'homme. Nous sommes au chapitre 6 de la Genèse, et c'est très grave. C'est tellement mauvais que Dieu noie la planète entière, à l'exception de 8 personnes, dans le déluge mondial. Regardez le chapitre 7, verset 23. Cela nous montrera à quel point c'était mauvais. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu a littéralement effacé la planète, à l'exception des animaux qui se trouvaient sur l'arche, et des 8 personnes dans la famille de Noé. Si vous suivez l'histoire au chapitre 9, Noé et sa famille ont finalement vu l'eau se calmer. Ainsi Noé reçoit une nouvelle commission, la même commission qu'Adam et Ève ont reçue. Chapitre 9, verset 1. Soyez féconds. « Multipliez et remplissez la terre. Essayons ceci une deuxième fois. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, » leur dit-il au verset 2. « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Ce qu'il dit, c'est que vous pouvez tuer tout ce que vous voulez. C'est vrai, vous pouvez tuer tout ce que vous voulez. « Toute chose en mouvement, verset 3, qui est vivante, sera votre nourriture. » Alors, dit-il, sortez, et faites ce que j'avais initialement donné à Adam et Ève, le droit de faire, c'est-à-dire de régner sur la création, bien qu'au début, avant la chute, ils ne voulaient pas tuer les animaux. Il n'y avait pas de mort, parce qu'il n'y avait pas de péché. Maintenant, ils peuvent réellement tuer les animaux qui leur ont été soumis. Soyez fructueux, multipliez-vous. Recommencez. Au moment où vous arrivez à la fin du chapitre, vous avez une situation terrible, une situation absolument terrible. Noé est ivre, et il est exposé d'une manière sexuelle excessive. Une malédiction est prononcée sur son fils, parce qu'ils ont vu la nudité de son père dans son ivresse. Il était ivre et nu, d'une manière obscène. Et ici, vous avez le premier péché sexuel. Vous avez un peu plus de généalogie au chapitre 10. Et ensuite, vous arrivez au chapitre 11. Vous allez au verset 7, et vous avez des conflits. Le conflit ici est initié dans la confusion des langues. Vous arrivez au chapitre 12, et au verset 10 à 20, et vous avez le mensonge. Abraham ment au sujet de sa femme Sarah, en disant qu'elle n'est pas sa femme. Il a dit un mensonge parce qu'il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il dit à Pharaon que Sarah était sa sœur. Au chapitre 13, vous avez des conflits au verset 7, entre les troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. Dans le 13e verset du 13e chapitre, il est dit de Sodome, « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Donc, Sodome, et nous savons ce qu'était le péché, qu'est-ce que c'était? C'était le péché de l'homosexualité. Je suis sûr qu'il y avait aussi toutes sortes d'autres péchés attenants. Au chapitre 14, vous avez la première guerre. Au chapitre 16, verset 4, vous avez l'adultère. Abraham avec Agar, produisant un fils. Au chapitre 18 et au verset 20, le Seigneur dit à nouveau, et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. Les choses empirent. Chapitre 19. Il y a toute l'activité homosexuelle, laide, triée et bizarre. À la fin du chapitre 19, d'ailleurs, les homosexuels tentent même de violer les anges, qui sont descendus dans le 19e chapitre de la Genèse. Vous arrivez à la fin de ce chapitre, et vous avez Lot en train de commettre l'inceste avec ses deux filles. Vous arrivez au chapitre 20, et vous avez encore le mensonge. Vous arrivez au chapitre 21, et vous avez de la cruauté envers Agar et Ismaël. Au chapitre 22, verset 24, vous avez la première concubine. C'est une esclave sexuelle, dans la langue vernaculaire d'aujourd'hui. Vous arrivez au chapitre 26, et vous avez la famine. Vous avez le mensonge aussi au chapitre 26. Je n'entrerai pas dans les détails, mais Isaac a suivi le modèle de son père, Abraham, et a menti sur sa femme, comme son père avait menti. Vous arriverez au chapitre 26, et vous avez la terrible querelle qui continue, indiquée au chapitre 26, versets 18 à 22, la querelle au sujet des puits. Au chapitre 27, vous avez la tromperie. Cela continue ainsi, et je pourrais faire cela encore pendant une heure. Mais permettez-moi de l'exécuter rapidement. Au chapitre 29, trahison, tromperie. Chapitre 30, colère. Chapitre 30, adultère. Chapitre 30, polygamie. Chapitre 31, tromperie. Chapitre 31, vol. Chapitre 31, idolâtrie. Chapitre 31, colère. Chapitre 31, implacabilité ou refus de se plier. Chapitre 32, haine. Chapitre 34, viol. Chapitre 34, meurtre de masse. Chapitre 34, pillage. Chapitre 35, idolâtrie. Chapitre 37, vente de quelqu'un en esclavage, trahison. Chapitre 37, prostitution et inceste, et ainsi de suite. Maintenant, ne diriez-vous pas que quelque chose a radicalement changé par rapport à la déclaration, et Dieu a vu tout ce qu'il a fait, et tout était très bien? Oui, quelque chose a changé, c'est vrai. Ce qui a changé est enregistré dans Genèse, chapitre 3. Ce qui a changé, c'est que le péché est entré en scène, et a tout pollué, et avec lui est venue la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, comment comprendre le péché? Nous reviendrons à Genèse 1 et examinerons les détails. Mais je veux que vous compreniez le monde dans lequel nous vivons. Comment définir et comprendre le péché? Nous avons 5 questions que nous examinons. Premièrement, je vous rappelle, qu'est-ce que le péché? Si vous regardez les mots hébreux de l'Ancien Testament, vous trouverez un certain nombre de mots utilisés pour décrire le péché, plus d'une douzaine. Ils ont l'intention de se tromper, de s'égarer, d'errer, de dépasser, de s'écarter du chemin ou de s'écarter de la vérité, de se rebeller, de transgresser, d'être têtu, d'agir infidèlement ou perfidement, d'être trompeur, de traiter violemment, de faire le mal, et des mots comme la méchanceté. Il y a aussi un mot hébreu pour être coupable, un autre pour offenser, un autre pour être injuste, un autre pour tordre, un autre pour déformer, et un autre pour être pervers. Ce sont toutes les manières de décrire ou de définir le péché. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi un certain nombre de mots pour définir le péché. Cela signifie rater la cible, s'égarer, transgresser. Cela signifie faire le mal, tomber, désobéir, être obstiné, injuste, impie, coupable, ignorant, avoir une dette, être mauvais, s'opposer à Dieu, etc. Toutes ces choses. Mais comment l'avons-nous résumé? Nous l'avons résumé par 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché désobéit à Dieu, c'est tout. Donc je vous ai donné cette définition. Le péché est tout manque personnel de conformité au caractère moral et à la loi de Dieu. Tout ce qui est moins que la sainteté de Dieu est un péché. Si vous n'êtes pas aussi saint que Dieu, c'est un péché. Si vous faites quelque chose pour violer sa loi, c'est un péché. Ainsi le péché est donc tout manque personnel de conformité au caractère moral et à la loi de Dieu. J'avoue que c'est une définition de MacArthur. C'est celle que j'ai élaborée dans mon esprit, parce que je pense que cela résume la situation. Toute pensée, toute parole, tout acte ou toute omission qui est incompatible avec le caractère parfait et saint de Dieu, ou qui viole de quelque manière que ce soit sa loi, est un péché. C'est de l'anarchie. La construction de 1 Jean 3:4 fait de l'anarchie et du péché des synonymes. Comme je l'ai dit il y a une semaine, vous ne pouvez pas définir le péché comme une violation de la loi de Dieu si vous ne croyez pas que la Bible est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc, parce que notre société rejette la Bible, il n'y a pas de définition du péché, et nous faisons des sondages tout le temps. Vous dites, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas la loi de Dieu? Qu'en est-il des personnes qui ignorent la loi de Dieu? Selon Romains 1, ils sont sans excuse, parce que ce qui doit être connu de Dieu se manifeste autour d'eux dans le monde créé, et dans la raison. Le chapitre 2 de Romains dit que la loi de Dieu est écrite où? Dans leur cœur. Cela fait partie de l'être humain d'avoir la loi de Dieu dans son cœur, une loi conforme aux Écritures. Le péché est donc une offense contre Dieu. C'est pourquoi David, dans le psaume 51:4, a dit « J'ai péché contre toi seul ». Tout péché est finalement et principalement contre Dieu. Vous pourriez pécher contre une autre personne. À certains égards, cela est accessoire à la direction réelle de ce péché, qui était une offense à Dieu, qui est le législateur, et qui est moralement parfait. Ainsi, nous définissons le péché. La deuxième question que nous avons posée, à quoi ressemble le péché? Je vous ai dit que le péché souille, c'est-à-dire que c'est une disposition du cœur, qui corrompt tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, et tout ce que nous faisons. Donc, nous devons dire que le cœur est trompeur par-dessus tout, désespérément méchant. Nous devons dire qu'il n'y a rien de bon en nous, même le meilleur de nous, ce sont des chiffons sales. C'est une souillure profonde dans notre nature même qui corrompt tout ce que nous faisons. Deuxièmement, le péché n'est pas seulement salissant. Il est rebelle. C'est par nature le mépris de Dieu. C'est par nature la destruction de Dieu et l'intronisation de soi. Troisièmement, le péché n'est pas seulement une rébellion. C'est de l'ingratitude. C'est comme les 9 lépreux qui ont été guéris par Jésus et qui ne sont jamais revenus pour dire merci. Le péché, c'est de prendre tout ce que Dieu nous a donné dans son monde créé et ne jamais rendre grâce à lui. C'est une ingratitude totale. Ainsi, nous l'avons dit la dernière fois, le péché est souillure, rébellion et ingratitude. Puis, quatrièmement, je pense que nous nous sommes arrêtés à ce point. Le péché est un travail difficile. Avons-nous mentionné cela? Le péché est un travail difficile. Vous savez, la plupart des personnes vont en enfer en transpirant, parce qu'il y a un effort furieux pour vraiment commettre autant de péchés que possible. Cela produit la douleur et la mort, et pourtant les personnes travaillent très dur pour réussir à pécher. Ils, dans leur convoitise, convoitent le péché, comme le dit Jacques, puis ils travaillent à l'accomplissement de la conception. Jérémie dit au chapitre 9, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Il pleure sur les pécheurs, qui sont punis par Dieu. Il a dit, « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, et c'est une bonne troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils vont simplement d'un péché au suivant. Au suivant, au suivant. Que chacun se tienne en garde contre son ami, qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car même ton frère cherche à te tromper, et tout ami, même un proche, répand des calomnies. Eh oui, ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir. Écoutez ceci, verset 5. Ils s'étudient à faire le mal, ils se fatiguent à commettre l'iniquité, ils vont en enfer en transpirant. Psaume 7:14. Voici le méchant prépare le mal. Ils sont littéralement dans une volonté implacable et passionnés à commettre le péché qui les fatigue. Cela est illustré de façon si dramatique dans Genèse 19. Vous souvenez-vous de ce qui se passait? Deux anges sont venus à Sodome dans la soirée. Comme les anges peuvent le faire, ils prennent une forme humaine. Deux anges vinrent sous une forme masculine et Lot les vit. Alla à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Il a dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. » Il voit ces beaux anges, en apparence comme des hommes, et il dit, Entrez vite dans la maison, passez la nuit, s'il vous plaît. Lavez vos pieds, indiquant qu'ils sont apparus d'une manière très humaine. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Ils ont dit non. Nous passerons la nuit dans la rue. Nous allons simplement rester ici sur place. Il les a vivement encouragés à venir chez lui. Mais l'hôte les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Une foule d'hommes se rassemble autour de sa maison. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Je veux dire, c'est assez simple, n'est-ce pas? Nous voulons avoir des relations sexuelles avec ces deux beaux hommes. » Lot sortit vers eux jusqu'à la porte et ferma la porte derrière lui. Il a dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles. » C'était une chose stupide à faire, mais il était, sur l'impulsion du moment, en train de faire un mauvais jugement. « Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. C'est une chose stupide à faire. Ils ont dit, « Écartez-vous, écartez-vous. Nous ne sommes pas intéressés par les femmes. » De plus, ont-ils dit, « Celui-ci est venu comme un étranger et agit déjà comme un juge. Maintenant, nous, et il parle de Lot, maintenant nous allons te traiter pire qu'eux. » Alors, ils se pressèrent fortement contre Lot et se rapprochaient pour casser la porte. Mais les hommes tendirent la main et amenèrent Lot avec eux dans la maison et fermèrent la porte. Ce seraient les anges. Ils ont frappé de cécité les hommes qui se trouvaient à la porte de la maison. Regardez ceci, à la fois petits et grands. Ils les ont tous rendus aveugles. Alors ils se sont fatigués en essayant de trouver la porte. Vous savez quoi? Ils n'ont pas abandonné. Ils sont simplement devenus aveugles. Et ils essaient toujours d'ouvrir la porte. Vous parlez d'une passion dévorante, littéralement, indiquant le fait que le péché est un travail acharné. Il consomme la vie et l'énergie des personnes. Proverbe 4:16 dit « Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Ils sont privés de sommeil, à moins de faire trébucher quelqu'un. Ils restent éveillés juste pour perpétrer la méchanceté. C'est le péché. C'est un travail difficile de péché. En fait, dans Ésaïe 5:18, il dit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char. » Ils sont comme un bœuf muet, accroché à une charrette de péché. Ils le traînent comme une bête de somme. C'est ce que font les pécheurs. Le péché est fatigant. Le péché est un travail difficile. Il souille. Il souille jusqu'aux composants essentiels de notre nature. C'est une rébellion contre Dieu. Il veut détrôner Dieu. C'est de l'ingratitude envers Dieu. C'est une entreprise de travail acharné qui dure toute la vie. Et les pécheurs se fatiguent dans un effort pour satisfaire leur convoitise. Cinquièmement, le péché est incurablement fatal. Le péché est incurablement mortel. L'âme qui pèche mourra, dit Ézéchiel 18. Romains 3, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme ne peut rien y faire, car son cœur est trompeur, par-dessus tout, et désespérément méchant. Jérémie 17, toute la tête est malade, comme Ésaïe 1:4-6. Il est malade du haut de la tête, au bout de ses pieds et tout le reste. Il a été atteint d'une maladie incurable qui finira par le tuer d'une mort éternelle. C'est pourquoi Jérémie 13:23 dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Vous ne pouvez pas faire plus de bien qu'un léopard ne peut changer ses taches en souhaitant qu'elles disparaissent, ou un Éthiopien ne peut changer la couleur sombre de sa peau. Le problème est que, même l'homme, à son point le plus profond, a sa conscience souillée. Il est dit dans Tite 1:15, « Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Même le mécanisme divinement accordé pour les amener à faire le bien est souillé. Le système d'avertissement est cassé. Le système d'avertissement est souillé. Le péché est incurable. » Jean Flavel, le puritain, a écrit ceci, « Toutes les larmes d'un pécheur pénitent, s'il en versait autant qu'il y a eu de gouttes de pluie depuis la création, ne peuvent pas laver un seul péché. Les incendies éternels en enfer ne peuvent pas purifier la conscience enflammée du moindre péché. » Fin de citation. Il n'existe pas de remède humain. Le pécheur ne peut en aucun cas expier son péché, même en enfer. C'est pourquoi l'enfer dure éternellement. Il n'expie pas son péché. Il n'y a pas de remède humain. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de rééducation. Rien de ce que fait l'homme ne peut guérir la maladie mortelle. Cela le tuera physiquement, comme cela l'a tué spirituellement, et cela finira par le tuer éternellement. Notez ceci, s'il vous plaît. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'est pas raciste. Dieu ne résiste pas à une personne et ne rejette pas une personne à cause de sa race, ou à cause de sa couleur, ou parce qu'il est pauvre, ou parce qu'il est ignorant, ou parce qu'il n'est pas scolarisé, ou parce qu'il est handicapé, ou parce qu'il est faible, ou parce qu'il est malade, ou parce qu'il est impopulaire, ou parce qu'il est méprisé, ou parce qu'il est un paria. Dieu ne résiste, ni ne rejette une personne pour aucune de ces raisons. Dieu rejette les individus, mais il les rejette parce qu'ils sont pécheurs. Le salaire du péché est la mort. L'âme qui pêche mourra. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après cela le jugement. C'est pourquoi Dieu dit à travers les paroles de Jérémie, Jérémie 44:4, « Ne faites pas ces abominations que je hais. Ne faites pas cela. » Alors, c'est le caractère du péché. Cela conduit à une autre question à laquelle nous n'aurons probablement pas le temps de répondre ce soir. Mais je pense que nous allons au moins vous la présenter. Combien de personnes le péché affecte-t-il? Qu'est-ce que le péché? À quoi ressemble le péché? Combien de personnes cela affecte-t-il? Tournez-vous vers Romains, chapitre 3. Et je vous rappelle aussi 1 Corinthiens 15:22. Et comme tous meurent en Adam. Romains 5:12. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Partout où il y a la mort, il y a du péché. Tout le monde meurt, donc tout le monde est pécheur. Nous comprenons cela. Mais regardez la déclaration la plus directe à cet effet. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, et ceci est tiré principalement du psaume 14, les trois premiers versets. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprend. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils sont devenus inutiles. Il n'y en a pas qui fasse le bien. Il n'y en a même pas un seul. Maintenant, c'est tout. C'est tout. Allez au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur la planète qui peut faire valoir son argument pour sa propre défense. Toute bouche est fermée devant la loi de Dieu, que nous avons tous violée, et le monde entier est responsable devant Dieu. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Le mal universel. Il n'y a personne qui comprend l'ignorance universelle. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2:14. Personne n'est juste, pas même un seul. Et cela est ajouté parce que quelqu'un dirait, sauf moi. Ainsi le Saint-Esprit a dit, non, pas toi, personne. Il n'y a personne qui cherche Dieu, personne ne fait le bien. Il n'y en a même pas un, dit le verset 12, pas même un seul. C'est le verset 23 qui résume ensuite, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela répond donc à la question. C'est une question assez simple. Combien de personnes le péché affecte-t-il? Réponse, tout le monde. Combien de personnes meurent? Tout le monde. Connaissez-vous quelqu'un qui ne vieillit pas? Il y a beaucoup de personnes qui essaient de le combattre de bien des façons. C'est bon, mais connaissez-vous quelqu'un qui ne vieillit pas? Connaissez-vous quelqu'un qui a perpétuellement 21 ans? Connaissez-vous quelqu'un qui ne vieillit pas? Tout le monde meurt. Tout le monde. Tout le monde meurt, parce que tout le monde est dans le péché. Le péché est la puissance dégénérative et salissante du courant humain. C'est pourquoi David, dans le psaume 51, regarde en arrière et dit « Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il ne veut pas dire qu'il était un bébé illégitime. Il veut dire qu'au moment de la conception, j'étais un pécheur. Au moment de ma conception, j'étais un pécheur. Au moment de ma naissance, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde pécheur. Si vous cherchez à trouver mon péché dans l'ADN, il n'est pas là. Vous ne pouvez pas le voir dans un tube à essai, pas plus que vous ne pouvez voir mon péché sur une radiographie de mon cerveau. N'êtes-vous pas heureux lorsque vous avez une IRM que cette chose ne puisse pas lire vos pensées? Il n'y a aucun moyen de radiographier une pensée. Il n'y a aucun moyen de trouver votre péché dans votre ADN. Vous ne pouvez trouver cela que dans la réalité mystique de qui vous êtes. Nous sommes tous en train de mourir, donc nous péchons tous. Maintenant, tout le monde n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Tout le monde n'est pas aussi mauvais que les autres. Tout le monde n'est pas aussi mauvais que possible. Mais tout le monde est assez mauvais pour être condamné à l'enfer. Personne n'est capable de respecter la norme de Dieu. Quelle est la norme de Dieu? Être aussi moralement parfait que Dieu l'est et obéir parfaitement à sa loi. Si vous n'êtes pas aussi parfait que Dieu et que vous avez déjà enfreint sa loi, vous êtes soumis à la mort éternelle. La mort universelle indique la nature universelle du péché. La nature universelle du péché implique le péché. Vous comprenez cela? La mort implique une nature pécheresse. La nature pécheresse implique le péché. Quelque part sur la route dans le passé, quelqu'un a introduit cela dans le courant humain. Nous savons maintenant de qui il s'agissait. C'était cet Adam et sa femme, Ève. Vous dites? Ah, j'aurais souhaité qu'il n'ait pas fait cela. Vous voulez savoir quelque chose? S'il ne l'avait pas fait, vous l'auriez fait. Moi aussi, nous avons examiné ce qu'est le péché, à quoi il ressemble et qui en est affecté. Je veux répondre à d'autres questions dimanche prochain. La quatrième question, qu'est-ce que le péché nous fait? C'est vraiment intéressant. Que nous fait le péché? Puis enfin, comment le péché en est-il venu à nous affecter? Cela nous amènera au péché d'Adam et nous reviendrons à Genèse 3. Quand nous y entrerons, vous serez fascinés par ce qui est là. Puis-je terminer en disant cela? N'arrêtez pas vos facultés mentales en ce moment. J'ai presque l'impression que j'aurais dû prêcher ces sermons aujourd'hui à l'envers. J'ai prêché sur la repentance ce matin et le péché ce soir. Cela va vraiment dans l'autre sens, n'est-ce pas? Ce matin, nous vous demandions de vous repentir. Ce soir, nous vous avons dit de quoi vous repentir. N'est-il pas merveilleux de savoir qu'avec toute cette réalité sur qui nous sommes, Dieu pardonne aux pécheurs? C'est la gloire de l'Évangile. Comme vous l'avez entendu si clairement dans les témoignages ce soir, la gloire de l'Évangile est là. Mais tout cela est vrai à notre sujet, et c'est exactement qui nous sommes. C'est exactement ce que nous méritons, le châtiment éternel. Mais le fait est que Dieu a placé notre iniquité sur Christ, une grande réalité. Il a porté nos péchés dans son propre corps. Il a été fait péché pour nous. Ainsi Dieu l'a puni à notre place. Telle est la gloire de l'Évangile, n'est-ce pas? Si vous venez à Dieu et lui demandez avec un cœur vraiment pénitent, croyant en Jésus comme votre substitut, si vous demandez à Dieu de pardonner votre péché, il entendra cette prière et y répondra. Amen. Père, merci pour cette belle soirée, une belle journée, une si grande vérité de ta parole profonde. Nous sommes impatients de reconnaître notre péché comme David l'a dit. Son péché est toujours devant lui. Seigneur, nous ne pouvons jamais échapper à la réalité de cela, et nous le confessons continuellement. Nous nous en repentons continuellement, et nous te remercions continuellement de nous pardonner. Nous bénissons continuellement ton nom et le nom du Seigneur Jésus-Christ pour avoir porté notre châtiment sur la croix et mourir à notre place, afin que nous puissions connaître la vie éternelle. Nous te louons et nous te bénissons, au nom de notre Sauveur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.